Voici commence la première épître de Paul aux Corinthiens, par la salutation. Paul, apôtre de Jésus-Christ, par appel, par la volonté de Dieu, et le frère Sosthène, à l'Église de Dieu qui est à Corinthe, à ceux qui ont été consacrés en Jésus-Christ et qui sont saints par appel, avec tous ceux qui, en tout lieu, invoquent le nom de notre Seigneur Jésus-Christ, qui est leur Seigneur comme le nôtre, grâce et paix à vous, de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. Aujourd'hui, l'Église qui est au foyer de l'âme, à Paris et en tout lieu, peut recevoir d'une manière ou d'une autre cette bonne nouvelle, grâce et paix à vous, de la part de l'Éternel notre Dieu et de Jésus le Christ notre frère. Paul poursuit un peu plus loin, à partir du verset 26 de cet épître. Regardez, mes frères, comment vous avez été appelés. Il n'y a pas parmi vous beaucoup de sages selon la chair, ni beaucoup de puissants, ni beaucoup de nobles. Dieu a choisi ce qui est fou dans le monde pour faire honte aux sages. Dieu a choisi ce qui est faible dans le monde pour faire honte à ce qui est fort. Dieu a choisi ce qui est vil dans le monde, ce qu'on méprise, ce qui n'est pas, pour réduire à rien ce qui est, de sorte que personne ne puisse faire le fier devant Dieu. Or, c'est grâce à lui que vous êtes en Jésus-Christ, qui a été fait pour nous sagesse venant de Dieu, mais aussi justice, consécration et rédemption, afin, comme il est écrit, que le fier mette sa fierté dans le Seigneur. Alors voilà, chacun de nous est bien à sa place ici. À personne il n'est demandé de devenir noble, puissant ou sage, mais seulement d'être présent, d'écouter, d'être attentif à cette voix, ce souffle, ce frémissement au plus profond de chacun de nous, qui nous appelle, nous saisit, nous mobilise, qui recueille ce que chacun, chacune, porte en lui ou en elle, la joie et les soucis, les luttes et les consolations, les douleurs et les remords, les choix et les questions, les protestations et les inventions, tout ce qui remplit nos êtres et nos vies. Tout est rassemblé, tout est déposé dans la grâce et dans la paix. Je vous invite à vous lever pour chanter la première strophe du psaume 84. À rester debout pour le temps de la louange dans laquelle Françoise va nous conduire. Juste un petit mot d'explication. Le texte biblique qui va porter notre méditation de ce jour est un texte biblique d'un évangile, texte assez connu, et c'est un texte que nous avons lu, partagé, discuté ensemble avec le groupe Théo et Psycho qui se réunit une fois par mois. Et c'est à la suite de cet échange, de ce partage, que ce texte est arrivé jusqu'à ce dimanche, jusqu'à nous aujourd'hui. Et c'est donc avec certains membres de ce groupe, Théo et Psycho, que ce culte est animé, que certains des textes vont être lus. Donc, Françoise pour la louange.
Pour cet éclat de lumière qui transperce les ténèbres dans lesquelles nous pourrions errer sans fin, pour cette senteur de bonheur qui traverse les effluves les plus lourdes de nos arrière-cours, pour ce goût de la vie qui persiste par-delà la fadeur des désillusions et des regrets, pour cet effleurement de tendresse sur nos rides, sur nos blessures et sur les bleus de notre âme, pour cet écho de ta parole qui résiste dans la cacophonie de nos contradictions, pour le sens donné à nos existences, de grâce en bénédiction. Loué sois-tu, ô notre Dieu.
Et au psaume 84, les strophes 2, 3 et 4. Entrons dans la prière avec cette prière du pasteur Charles Wagner dans laquelle Marianne va nous faire entrer.
Éternel, tu nous as aimés le premier, avant que nous existions, avant nos pères, avant les débuts obscurs dont sortit l'humanité. Tu nous as aimés, mieux qu'une mère en espérance d'enfant, qui pense à l'inconnu qui sommeille en elle, tu nous as aimés d'avance et portés. Car nous sommes ton espérance, nous sommes ta crainte, ta joie et ta douleur. Malgré l'immense peine que tu subis parmi nous, tu nous as voulu et nous veux encore, toujours. À travers les obstacles, les chemins perdus, les gouffres, les ombres de mort, tu nous veux et nous mènes. Tu communies avec nous, tu nous aimes victorieusement, avec une puissance devant laquelle tout cédera. Tu boiras avec nous les calices, tu combattras tous les combats, tu descendras dans toutes les tombes jusqu'à la fin, et la fin sera bonne. Que sommes-nous pour embrasser du cœur ton amour et nos destinées? L'un et l'autre sont plus loin que la portée de nos regards. Mais nous t'aimons, du fond des nuits, ô notre étoile immortelle et vivante. De toutes nos infirmités, nous aimons ta force. De toutes nos laideurs, nous aimons ta beauté. Nous t'aimons comme le désert aime la source, comme le désespoir aime le salut, comme le pèlerin aime l'ombre et le malade la santé. Amen.
Au cantique numéro 272, « Ô mon Père, ma prière », je vous invite à vous lever pour chanter. Texte donc qui portera notre méditation de ce jour, un texte qui sera lu par Pierre. Nous prions, conduit par Martine.
Éternel, au moment où nous allons méditer les Écritures, donne-nous d'y plonger nos visages comme dans une source inédite qui éclaircisse nos voies. Libère nos conversations. Nous autorise à parler et à écouter. Donne-nous, entre les pages ouvertes, de sentir craquer la jointure de notre monde, de sentir trembler les portes de notre monde. Et les yeux soudain levés vers notre monde, d'entrevoir son ébranlement, de voir qu'il n'est pas fini. Donne-nous d'être intrigués, retardés dans nos courses fébriles ou apeurés. Dans notre lecture, trop rapide, non seulement des Écritures, mais de nos existences, de notre temps et de notre monde. Amen.
Évangile selon Jean, chapitre 5, versets 1 à 18. Après cela, il y avait une fête des Juifs et Jésus monta à Jérusalem. Or, à Jérusalem, près de la porte des moutons, il y a un bassin qui s'appelle en hébreu Bethzaata et qui a 5 portiques. Sous ces portiques était couchée une multitude de malades, d'aveugles, d'infirmes, d'estropiés. Là se trouvait un homme malade depuis 38 ans. Jésus le vit couché et, sachant qu'il était déjà là depuis longtemps, il lui dit « Veux-tu retrouver la santé ?» Le malade lui répondit « Seigneur, je n'ai personne pour me mettre dans le bassin quand l'eau est agitée. Pendant que moi, je viens, un autre descend avant moi. » Jésus lui dit « Réveille-toi, prends ton grabat et marche. » Aussitôt, l'homme retrouva la santé. Il prit son grabat et se mit à marcher. Or, c'était le Shabbat ce jour-là. Les Juifs disaient donc à celui qui avait été guéri, « C'est le Shabbat, il ne t'est pas permis de porter ton grabat. » Il leur répondit, « C'est celui qui m'a rendu la santé qui m'a dit, « Prends ton grabat et marche. » Ils lui demandèrent, « Qui est l'homme qui t'a dit, « Prends et marche ?» Mais celui qui avait été guéri ne savait pas qui c'était, car Jésus s'était esquivé. En effet, il y avait foule en ce lieu. Après cela, Jésus le trouve dans le temple et lui dit « Eh bien, tu as retrouvé la santé, ne pêche plus, de peur qu'il ne t'arrive quelque chose de pire. » L'homme s'en alla dire aux Juifs que c'était Jésus qui lui avait rendu la santé. C'est pourquoi les Juifs persécutaient Jésus, parce qu'il faisait cela pendant le Shabbat. Jésus leur répondit « Mon Père est à l'œuvre jusqu'à présent, et moi aussi je suis à l'œuvre. » C'est pourquoi les Juifs cherchaient d'autant plus à le tuer, non seulement parce qu'il annulait le Shabbat, mais parce qu'il disait que Dieu était son propre Père, se faisant ainsi lui-même égal à Dieu.
Bien sûr, c'est un récit de guérison. La guérison d'un homme sans force. Asthénie, c'est le terme grec désignant ce qui l'affecte. Un homme affaibli. Tellement affaibli qu'il semble avoir les plus grandes difficultés à se déplacer, à se traîner vers le bassin de la piscine de Bethsaida, et il n'a aucune chance d'arriver le premier lorsque l'eau se met à bouillonner, car le premier qui descend dans l'eau à ce moment du bouillonnement est guéri. Cela explique peut-être cette foule de personnes infirmes, estropiées, aveugles, cette foule qui se presse sous les 5 portiques de la piscine. Mais lorsque Jésus survient là, autre chose fait irruption entre les portiques, près du bassin. Pour l'homme tant affaibli, quelque chose qui le conduira hors de ses lieux, réveillé, debout, marchant, grabat sous le bras. Bien sûr aussi, c'est un récit de controverse entre Jésus et les Juifs, terme qui désigne les opposants à Jésus et à son œuvre, avec au milieu l'homme guéri. Controverse entre légalistes et transgresseurs, et l'on sait bien qui veut se débarrasser de qui. Controverse entre l'ordre et le sens, entre la règle et la compassion, entre la norme et le jaillissement de la vie. Parce que lorsque Jésus survient, la loi prend enfin sa place et son éclat, et son rôle qui est de baliser un chemin, pas d'être un outil de pouvoir ni de dispenser le salut. Récit de guérison, récit de controverse, mais il suffit finalement de regarder le texte, c'est un peu pour cela que je l'ai mis sur la feuille de culte. Il suffit de regarder le texte, il suffit de considérer sa composition pour se rendre compte que ce qui est en jeu, ce qui joue, ce sont les paroles échangées. Il dit, il répondit, ils demandèrent. Tous les acteurs s'expriment. Beaucoup de paroles sont dites, adressées en mode direct ou indirect. Ce qu'elles font, ces paroles, c'est cela qui imprime son mouvement au récit. C'est cela que je vous invite à explorer ce matin, à travers ce texte du 4e évangile, l'évangile qui commence en confessant que la parole a été faite chair. Parole Dieu en chair humaine. Une alliance que l'évangéliste pose, ce n'est pas un secret, c'est brodé tout au long de l'évangile. Il pose que cette alliance est à nouer, à renouer en chaque disciple, en chaque ami du Christ. Et ce ne sont pas tant les modalités ou les formes de cette alliance qui intéressent particulièrement l'évangéliste Jean, parce qu'elles sont nombreuses et diverses, mais surtout ce qui advient dans ce nouage et que le vocabulaire typiquement joannique désigne comme vie éternelle, une qualité de vie avant de mourir, une qualité de vie comme vie reçue, comme un don de Dieu. Que font les paroles ? Dans ce récit, certaines paroles restaurent. Elles font grandir, elles vivifient, elles encouragent, elles éclairent un présent, elles dévoilent un horizon. D'autres paroles écrasent, elles mettent à terre, elles blessent, elles rendent malades, elles épuisent, elles enferment dans une définition. Et puis d'autres paroles encore hésitent, tâtonnent, ignorantes, naïves, balbutiantes, un peu errantes, un peu en quête. Mais il se joue quelque chose de vital ou de mortel, de thérapeutique ou d'empoisonnant, de présent, de présence ou de distance dans les paroles prononcées. Que font nos paroles entre nous et en nous? Comment nos paroles nous relient-elles les uns aux autres? Comment nous rendent-elles présents à ceux qui nous entourent? Et peut-être au-delà, ce n'est pas le thème du texte, mais peut-être au-delà, pas seulement aux autres humains, aux animaux, aux végétaux, à la planète dans son entier. La parole de Jésus à l'homme sans force est une parole pour faire parler. Faire parler cet homme affaibli. Veux-tu être guéri? Étrange question. Qui ne le voudrait pas? Littéralement, veux-tu devenir saint? S-A-I-N. Qui voudrait rester malade? Mais Jésus ne présuppose rien au sujet de l'homme qu'il a vu. Il ne décide pas pour l'autre. Il a vu cet homme tellement affaibli, et depuis si longtemps. 38 ans, écrit Jean. L'évangéliste fait ainsi écho, par ce nombre, au temps passé par le peuple sorti d'Égypte, le peuple rebelle, qui passe 38 ans dans le désert, après la sortie d'Égypte, avant d'entrer dans la terre promise. 38 ans de désert, un lieu sans parole, pour faire passer, pour dépasser leurs paroles revendiquant une liberté qui soit sans reconnaissance, sans responsabilité, sans engagement. Des paroles considérant que si la liberté est un don et pas un dû, alors elle est une charge. La mention des 38 ans par l'évangile de Jean ne signifie pas que la faiblesse extrême de l'homme serait la conséquence d'une faute ou d'un manquement. Elle indique qu'il est question de paroles, de ce que produisent les paroles. Et celle de Jésus, la parole de Jésus, produit une réponse. Une réponse aride, comme un désert. Je n'ai personne. 38 ans de solitude. Pire, d'isolement au milieu de cette multitude assemblée sous les 5 portiques de la piscine de Bethsaida. Mais n'est-ce pas manquer de force ? Justement, que de n'avoir personne qui puisse vous porter. quand vous ne pouvez plus avancer tout seul. N'est-ce pas devenir extrêmement faible que de ne recevoir jamais aucune aide ? N'est-ce pas perdre sa vitalité de ne recevoir, donner, partager aucune parole ? Nous le constatons. Nous l'éprouvons particulièrement depuis près d'un an. Un an de distance, de réduction, de rétrécissement des interactions, des échanges, des dialogues. Un an de repliement sur soi, chez soi, en soi. Alors même qu'auparavant, cette maladie de l'être affectait déjà nombre de nos contemporains. Alors après l'évocation du temps du désert, l'évangéliste remonte encore, ou plutôt il creuse, non pas le temps, mais l'essence même de la condition humaine, celle qui est mise en récit dans le livre de la Genèse, au chapitre 2, lorsque l'Éternel qui a façonné l'humain avec la poussière de la terre constate « Il n'est pas bon que l'humain soit seul. Je vais lui faire un vis-à-vis, qu'il y soit un secours vital. » Alors dans le récit de la Genèse, l'Éternel construit à partir de cet humain la femme et l'homme, une altérité radicale, indispensable, constitutive comme toute altérité, de la possibilité de devenir soi parce que l'autre est là. Alors lorsque l'homme répond à Jésus « Je n'ai personne », il exprime le plus extrême dénuement qui puisse arriver à un être humain, la plus grande faiblesse de l'être humain, la plus grande faiblesse d'être. L'épuisement de n'avoir personne correspond à ce pas bon dont l'Éternel qualifie la solitude, l'absence de vis-à-vis, le manque d'un secours vital, car oui, il est question de vie et de mort. Le désert est un lieu mortel. Mais la parole de Jésus ouvre cette parole de détresse, peut-être de résignation, la parole d'un être desséché, dévitalisé, d'échec en déception, personne pour l'aider, aucune chance de descendre le premier dans l'eau bouillonnante, aucune chance de guérir. Et la seule force qui lui reste est paradoxalement ce manque. Il tente encore, il est toujours là, même s'il ne peut pas réussir. Jusqu'à ce que Jésus survienne. Jésus qui se lie, qui se relie, qui se noue avec l'homme sans personne. Jésus, le Christ de Dieu, la parole faite chair qui parle à nouveau, « Réveille-toi, prends ton grabat et marche. » Parole du Christ qui est parole de Dieu. En écho de Genèse, une parole créatrice, une parole réparatrice, une parole bienfaisante, parole de grâce et de bénédiction, parole de la puissance de la vie qui réveille, qui relève, une parole de résurrection. Réveille-toi. C'est un des deux verbes de la résurrection. Réveille-toi, ressuscite, hors de la solitude, hors du désert, car tu n'es pas destiné à la faiblesse, à la paralysie, au manque de force, de chance, d'énergie, de vitalité. La parole de Jésus rompt la terrible solitude. Elle interrompt le compte des années de désert. Et elle fait entrer en terre promise, la terre où l'on n'est pas abandonné à son sort, mais intégré avec d'autres, la terre où l'on reçoit le secours dont on a besoin pour vivre. Et c'est ainsi que Jésus donne tout son sens au sabbat, non pas un temps d'interdiction de faire ceci ou cela, mais le temps de la célébration du don de vie, de création en autorisation, de restauration en résurrection. Et ces paroles de Jésus n'attendent que d'être relayées, pas répétée telle qu'elle, mais relayée en écho, en résonance, en d'autres présences, les nôtres, dans ce monde de désert, de solitude, de manque de secours. Nous pouvons entendre et recevoir ces paroles vivifiantes qui nous saisissent, nous mobilisent, nous relèvent de nos fatigues, de nos échecs. Et nous pouvons parler aux enfants, aux vieillards, aux hommes, aux femmes, aux voisins, aux étrangers, à ceux qui n'ont plus de force, à ceux qui s'éteignent petit à petit, à ceux qui n'en peuvent plus d'épuisement. À eux, nous pouvons dire des paroles d'encouragement, de restauration, des paroles qui autorisent à être et à parler, des paroles adressées et ajustées qui nous relient à autrui et qui délient les fatalités. Il y a des paroles à entendre et à donner, des paroles qui font vivre, des paroles de Christ sans majuscule, lorsque nous nous nouons dans cette alliance de paroles de Dieu et de chair humaine où se tisse un autre état d'être, un autre état du monde. La manière dont nous parlons, dont nous nous parlons, cela construit le monde et participe à ce que nous y vivons. Le quatrième évangile, particulièrement, y rend ses lecteurs attentifs, comme de ce récit où la piscine, lieu de misère, lieu de désert, est transformée en lieu de vie, en espace de création, un lieu où advient du sacré, ni rite ni interdit, mais le sacré du jaillissement de la vie, de l'avenir, de la parole, de l'alliance. Prends ton grabat, ajoute Jésus, ce matelas de misère, ce reste de désert, de déception, de la détresse passée. Peut-être pour ne pas oublier ce qui a été traversé, pour ne plus subir, mais devenir agissant, acteur, participant, en prise enfin avec sa propre histoire, avec sa propre présence dans le monde. Peut-être aussi pour ne pas laisser de traces sous les 5 portiques de la piscine et signifier qu'un temps nouveau est advenu. Peut-être aussi pour être responsable, pas du grabat en lui-même, mais responsable, c'est-à-dire répondre de sa propre histoire. Et c'est bien ce qui arrive à l'homme rétabli, interpellé. C'est le sabbat, il ne t'est pas permis de porter ton grabat. S'il y a des paroles qui font vivre, il y a des paroles qui altèrent, qui rétrécissent, qui acculent, qui font pourrir, des paroles qui gâchent et qui négligent, des paroles désertées, des paroles dans un sinistre état, pour des relations sans reconnaissance, sans compassion, sans joie, qui s'accommodent de la souffrance d'autrui, de 38 ans et plus de solitude, pourvu que soient préservées les formes. La réponse de l'homme à ce moment-là n'est pas exceptionnelle. Il ne sait presque rien et il le dit. Il n'a pas tout compris. Il ne perçoit pas encore l'ampleur de ce qui est survenu pour lui, comme s'il était un peu en retard par rapport à l'événement, un peu décalé par rapport à ce qui lui est arrivé. Sa parole est celle d'un humain qui se cherche encore, se tente, essaie une vie nouvelle dont il n'a pas encore pris la mesure ni compris toutes les implications. Les paroles, même les meilleures, les plus bénéfiques, ne trouvent pas leur accomplissement immédiatement. Il en faut d'autres, le plus souvent, et il faut du temps, toujours, pour sortir de la paralysie, de l'enfermement, de la solitude. Avec parfois quelques pas en arrière, quelques mots un peu de travers. Ce n'est pas un échec, ce n'est pas une déception, ce n'est pas désespérant. La marche à laquelle Jésus a engagé l'homme, restauré, ce n'est pas un pas de danse, ni un défilé militaire, ni une procession de flagellants. C'est un pas après l'autre, avec la force qu'on a, qui vient. C'est une parole après l'autre, avec la compagnie de ceux qui se font véritablement compagnons. Et c'est Jésus qui, une nouvelle fois, se fait pour l'homme vis-à-vis et secours vital. Jésus qui le trouve de nouveau, cette fois dans le temple, et qui lui parle en allant droit à l'essentiel. Ne pêche plus de peur qu'il ne t'arrive quelque chose de pire. Pire que 38 ans de désert ? 39 ans ? Pas sûr. Pire que sans force, sans vie, carrément. Pire que seul et sans aucune chance, coupé, séparé de la source de la vie, absolument. À qui ? À quoi sommes-nous liés, reliés, accrochés parfois ? Qu'est-ce que cela fait ? Est-ce que cela fait de la vie dans notre vie ? Ces paroles, nous pouvons les adresser, parfois à nous-mêmes, parfois à d'autres, parce qu'elles participent à cette mobilisation, cette revitalisation de l'âme, de l'intelligence, de l'être, parce que leur exigence n'est pas au service d'un pouvoir qui serait à exercer sur autrui, mais qu'elle représente cette exigence, un soin de soi ou de l'autre. Parole du Christ. Parole de Christ sans majuscule, qui donne de la consistance, de la solidité, de l'équilibre et du dynamisme à l'existence. C'est bien cela que célèbre le sabbat, l'humain vivifié jusqu'à la vie éternelle. Et c'est ce sabbat que Jésus a mis en œuvre pour l'homme qui n'avait personne. Et quand Jésus le Christ fait l'œuvre de Dieu, c'est en réveillant, en relevant, en ressuscitant, c'est en restaurant, en guérissant, en réintégrant, en réconciliant l'humain en lui-même et dans l'humanité. C'est ce qu'il répond aux persécutions de ceux qui n'écoutent pas, qui ne parlent pas, sinon à eux-mêmes, persuadés qu'ils sont d'avoir raison. Jésus leur répond quand même, à ceux qui préfèrent les rites et les normes, aux êtres affaiblis comme aux êtres rétablis. Jésus le Christ ne déserte pas les déserts, qu'ils soient piscine ou temple, rue ou maison. Il ne renonce pas à rendre l'être humain, à offrir ce devenir d'allié de Dieu, pour créer de paroles bonnes en paroles fiables, de paroles vives en paroles intègres, les relations qui tiennent et maintiennent l'être et le monde. Telle est la grâce qui nous est faite. Amen. Thank you. Voici le moment de confesser la foi de l'Église. Je vous invite à vous lever et à accueillir ce texte de confession que Ludmila va dire.
Nous croyons en Jésus le Christ, qui a marché au nom de Dieu sur les chemins où personne n'allait plus, pour y trouver les hommes et les femmes que personne ne regardait plus. Il parlait aux hommes et aux femmes auxquels personne ne parlait plus. Il tendait la main là où on fermait le poing. Nous sommes ces gens vers lesquels il est venu, qu'il regarde et auxquels il parle, auxquels il donne la paix. Nous croyons en Jésus-Christ qui nous envoie à nous aussi, afin que nos pieds marchent sur les chemins de la rencontre, afin que nos yeux regardent les hommes et les femmes de notre monde, afin que nos bouches disent les paroles qui relèvent, afin que nos mains apportent la paix. Nous croyons que le Saint-Esprit est l'énergie, la fidélité et la joie de cet envoi vers autrui, et que nous y rencontrons aussi l'Éternel. Amen.
Et nous chanterons au cantique 242, nous t'invoquons, ô Seigneur, toi qui nous écoutes. De partager quelques annonces avec en premier lieu la bienvenue à celles et ceux qui sont ici pour la première fois. Il y en a quelques-uns. J'espère que vous vous sentez bien ici chez vous. À la sortie du culte, vous l'avez peut-être vu déjà en arrivant, notre ami Vincent a préparé quelques pots de confiture et autres douceurs. Donc n'hésitez pas à faire quelques emplettes de gourmandise, il n'y a pas de mal à cela. Et merci à Vincent de ce service-là. Aujourd'hui, comme je l'avais annoncé dimanche dernier, à 15h30, à la synagogue à Brunavel, rue de la Roquette, il y a un temps de prière interreligieuse pour les malades, les personnes victimes de la pandémie, pour Priez aussi pour que nous traversions et que nous allions au-delà de ce temps d'épreuve, un temps de prière qui rassemblera donc juifs, musulmans, bouddhistes et chrétiens, catholiques et protestants. Nous pouvons y aller à quelques-uns, une dizaine de personnes, donc n'hésitez pas à me le dire à la sortie. Si vous souhaitez venir, c'est donc à 15h30 à la synagogue Abra-Navel, c'est juste à côté, ils sont nos voisins, où nous sommes les leurs. Et il y aura là des représentants de toutes ces communautés pour un temps de prière, de chant aussi, il y aura des chants et puis quelques gestes. Selon les traditions des uns et des autres. Dans la semaine qui vient, comme les vacances scolaires ont commencé, c'est un petit peu aussi un temps de pause pour les activités de la paroisse. Je serai présente pour les urgences, donc n'hésitez pas à appeler sur le numéro indiqué sur le bulletin, mais pour les urgences seulement, merci. Aussi après le culte, j'ai oublié, j'y pense, Romain, tu vois, toute seule cette fois. Il y a comme chaque dimanche la collecte de produits alimentaires, de produits d'hygiène. N'hésitez pas pour aujourd'hui ou pour dimanche prochain, si vous le souhaitez. Dimanche prochain d'ailleurs, le culte sera assuré par notre ami Didier. Merci à toi. Les activités, mais je voudrais vous faire part d'une triste nouvelle, d'un deuil qui affecte le foyer de l'âme. Mardi, Madame Robert Garouel est décédée. Une amie fidèle depuis quasiment toujours. Je pense que ceux qui viennent ici depuis quelque temps que ce soit l'ont toujours vue. Elle a été active extrêmement en catéchisme, au conseil presbytéral, vice-présidente du conseil presbytéral pendant plusieurs années. Elle venait encore jusqu'avant le confinement avec Yvan ou Hervé, l'un ou l'autre de ses fils, qui l'accompagnaient au culte, à Évangile et Liberté, dont elle était une lectrice fervente. Elle est donc décédée mardi et le service funèbre aura lieu vendredi à 10h ici. Mais nous aurons l'occasion de reparler d'elle avec reconnaissance, avec amitié, avec tendresse pour la femme qu'elle était, qu'elle nous a, pour tout ce qu'elle a donné, et même moi qui suis là depuis si peu de temps, j'avais reçu de Madame Robert Garouel. Si vous souhaitez envoyer un mot à la famille, vous pouvez aussi me le dire, je pourrai vous communiquer leur adresse. Voici le moment de l'offrande. Voici que nous pouvons rassembler quelques moyens pour que l'Église assure ce qu'est son service, sa mission de solidarité, de présence, d'annonce, et que cette offrande surtout soit un signe de confiance et de joie. Thank you. nous rassemblons dans la prière d'intercession, la prière les uns pour les autres, avec Ludmila et Martine.
Notre Dieu, nous prions, nous intercédons, c'est-à-dire que nous nous engageons.
Nous voulons nous mettre en travers de ce qui déchire ta création, de ce qui altère, nie, brise l'humanité des humains. Et pour cela, nous avons besoin de courage, de cœur, de persévérance. Nous voulons laisser œuvrer en nous ta parole qui soigne et vivifie, et résister aux mots et aux gestes qui blessent et détruisent. Pour cela, nous avons besoin de ton esprit, de ta bonté et de ta justice.
Nous intercédons pour les hommes et les femmes affaiblis, malades, anxieux. Nous voulons les accueillir, les réconforter, être pour eux des compagnons fiables dans les épreuves de leur chemin.
Nous intercédons pour ceux qui soignent et restaurent, pour ceux qui aident à grandir et à devenir. Nous voulons les remercier, les encourager, être solidaires avec eux dans leur combat, dans leurs recherches et dans leurs engagements.
Nous intercédons pour ceux qui souffrent et pour ceux qui œuvrent dans des lieux démunis, dans des lieux dangereux, dans des lieux éloignés. Et notre prière est déjà une manière de ne pas les ignorer, de ne pas les abandonner, mais de nous relier à eux.
Nous élargissons notre prière à celle que Jésus-Christ, Jésus le Christ, a enseignée à ses disciples en disant à voix haute ou dans le secret du cœur, notre Père,
qui es aux cieux,
que ton nom soit sanctifié,
que ton règne vienne,
que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel.
Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour.
Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés.
Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal,
car c'est à toi qu'appartiennent le règne et la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen.
Et voici le moment de l'exhortation comme un dernier bon petit bagage.
Paul Éluard l'écrivait dans un de ses poèmes. Il y a des mots qui font vivre. Ce sont des mots innocents. Le mot chaleur, le mot confiance, amour, justice. Et le mot liberté, le mot enfant et le mot gentillesse, le mot courage et le mot patience, le mot frère et le mot camarade, et certains noms de pays, de villages, et certains noms de femmes et d'amis. Il y en a quelques autres, n'est-ce pas ? Des mots qui font vivre, que nous pouvons habiter, que nous pouvons recevoir, que nous pouvons donner.
Avant la bénédiction, le temps de la bénédiction, nous chantons au cantique 223, « Seigneur, que tous s'unissent ».
Thank you.
L'Éternel vous bénit et vous garde. L'Éternel tourne sa face vers vous et vous donne la paix. L'Éternel lève sa face sur vous et vous accorde la grâce. Allez en paix. Amen.